Marcel Groslot y est allé de larges remerciements, tout particulièrement à sa famille et son frère Denis, qui a souvent tenu seul le fort sur leur ferme de Thetford Mines. Le resserrement des liens avec les citoyens consommateurs est une fierté pour Marcel Groslot, qui a toujours su, par ailleurs, tenir des revendications importantes dans un climat serein. Il reste du travail, dit-il, entre autres pour le maintien d'une protection rigoureuse du territoire agricole. Aussi, dans les contextes local, national et mondial, il constate la pression et la menace sur les agricultrices et agriculteurs. J'ai retenu un long extrait de son discours d'adieu.
Le prix des terres, il a presque triplé depuis 10 ans. Dans la Naudière, 288 % d'augmentation. En Montérégie, 257. Au Saguenay, 146 %. Alors, c'est sûr qu'il y a un enjeu là, puis jusqu'à maintenant, on l'évite. Le point suivant, c'est la concentration dans le secteur de l'industrie. Si vous regardez au niveau de la viande, au niveau du veau, il y a à toute fin pratique un acheteur. Dans le porc, il y a 80 % qui est abattu par un acheteur qui contrôle plus que 80 % des exportations. Dans la volaille, c'est 2 acheteurs, 90 % et plus. Dans le lait, 3 acheteurs au Canada, on est à 80 %. Je vais prendre une production un peu plus marginale, le bleuet, on est au-delà de 80 % un acheteur. Quand on regarde en amont, au niveau de la fourniture d'intrants, 4 grandes compagnies mondiales contrôlent 60 % des semences et des pesticides. Quand on regarde au niveau alimentaire, 75 % de la population mondiale est alimentée à partir de 12 espèces végétales et 5 espèces animales. Si ce n'est pas de la concentration, ça. Alors, il y a un enjeu, un sérieux enjeu pour la ferme familiale. Le type d'agriculture qu'on pratique va être de plus en plus difficile à maintenir. Le type d'entreprise agricole va être de plus en plus difficile à maintenir dans un système aussi concentré. Je n'ai pas parlé du détail. Au Québec puis au Canada, c'est la même chose. Au niveau du détail, même les plus grands transformateurs canadiens, québécois, sont petits devant la puissance des détaillants alimentaires. Dans le bois, on l'a vu, ça a été mentionné. On n'a pas eu le prix qu'on aurait dû avoir pour les billes de bois cette année quand les 2x4 se vendaient à des prix d'or. Donc, là aussi, il y a des questions à se poser. Yvan Fréchette, des producteurs de porc, demandait à l'UPA, au dernier conseil général, de réfléchir à ce qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'il y a des façons qu'on pourrait aborder ces enjeux-là? Parce que ces transformateurs-là vont devoir continuer. On les trouve gros au Québec, malgré tout, à l'échelle mondiale, ils sont plutôt petits. Moi, c'est un enjeu, je pense, que l'UPA va devoir aborder avec le MAPAC, avec ces joueurs-là, parce que c'est de plus en plus difficile de négocier des conditions. On est dans une position où on se fait de plus en plus imposer nos conditions. Puis, ceux qui ont trouvé la façon de s'en sortir de ce dilemme-là, je dirais, c'est les fermiers de famille qui livrent directement aux familles abonnées. C'est ceux qui font de la transformation à la ferme de plus en plus, qui vendent sur les circuits courts. Parce que vraiment, pour un petit producteur, débuter dans un marché comme ça, c'est à peu près inaccessible. Alors, il y a un enjeu, là, pour moi, au niveau de la ferme familiale. Puis, c'est un enjeu, dans le fond, où on aurait intérêt à travailler ensemble. Moi, je trouve malheureux qu'au niveau des producteurs de porc, par exemple, Solio, qui est propriétaire d'Olimel, puisse pas collaborer davantage à des solutions globales et collectives. Je l'ai vécu, moi, cette difficulté-là, dans le temps que j'étais dans le lait avec Agropur et Lactel. La fédération et les coopératives, on se déchirait. Pendant ce temps-là, le secteur privé se développait. Est arrivé Serge Riendo avec une attitude différente. Puis la fédération et Agropur, on a commencé à se parler. On a vu qu'on n'était pas si différents que ça, que nos objectifs étaient beaucoup plus proches qu'on le croyait à l'époque. Que plutôt que s'identifier par opposition, on s'est mis à se trouver une identité beaucoup plus réciproque par rapport aux enjeux qu'on vivait. Puis, graduellement, les choses se sont améliorées. Moi, j'appelle à ce même rapprochement-là dans le secteur des viandes, aujourd'hui, alors que je quitte l'Union. Je pense que c'est possible, moi. Et c'est profitable, surtout, pour tout le monde. J'en appelle aussi à la Régie des marchés agricoles à faciliter l'accès à la loi pour les producteurs qui veulent s'organiser. Vous savez, aujourd'hui, là, prenons le secteur du bois, le syndicat du sud du Québec. À l'époque, là, tout le monde vivait sur son lot à bois ou sur sa terre. Tout le monde était facile à retrouver, à regrouper. On pouvait organiser des rencontres, c'était simple. Aujourd'hui, dans le secteur du bois, par exemple, tout le monde ne vit pas là sur les lots où il possède. Regrouper les producteurs, c'est plus difficile. N'en demeure pas moins que l'exercice qui a été fait par le syndicat était incroyable. L'énergie qu'ils ont mis là-dedans pour aller chercher l'appui majoritaire des producteurs, il était incroyable. Les producteurs de bois vont revenir avec un nouveau projet, vont se représenter devant la régie, et j'espère qu'on leur autorisera, comme la loi le permet, à faire une mise en marché collective et ordonnée de leur bois. La loi sur la mise en marché des produits agricoles existe pour une chose, pour corriger l'imperfection des marchés agricoles. On est des milliers de vendeurs devant une poignée d'acheteurs. On a des produits périssables, puis on est soumis au cycle naturel de production. C'est pour ça qu'on est vulnérable. On est le maillon le plus vulnérable dans la chaîne alimentaire. Et les législateurs ont compris ça. Ils ont adopté la loi de mise en marché des produits agricoles. Mais c'est pour ça que la loi existe. Donc, il faut favoriser l'utilisation au maximum par les producteurs de cette loi-là. Maintenant, on a encore beaucoup de travail à faire. Le thème du Congrès, puis je termine là-dessus, c'est « Nourrir l'humanité durablement ». Sans sécurité alimentaire, il n'y a pas de stabilité nationale. N'importe où, là. Il a juste failli manquer de papier de toilette, ici. Puis, je veux dire, s'il y en avait manqué vraiment, je pense que ça aurait été grave, là. Ça vous donne juste une idée, là. Mettons là, que c'est du lait, puis c'est des céréales, puis c'est de la viande qui manque. Là. Essayez d'imaginer la folie du monde. Ça serait épouvantable. Donc, nourrir l'humanité durablement, là, c'est pas penser que parce que chez nous, on a réglé le problème, que le problème est pour autant réglé. Parce que c'est global. Ça va être global aujourd'hui. Les limites du commerce au niveau alimentaire, on les a atteintes. On va avoir besoin du commerce. Le commerce est un outil de sécurité alimentaire, mais il ne doit pas être l'outil de sécurité uniquement. C'est un outil. Il ne peut pas être la sécurité alimentaire, le commerce. Lorsqu'on laisse les terres se vendre aux plus offrants, bien, ça fait ce qu'on vit aujourd'hui. Ça, c'est l'économie pure. Lorsqu'on veut envisager la réduction des gaz à effet de serre, si vous laissez ça uniquement à l'économie pure, ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va profiter du prix plus bas où il n'y a pas de réglementation pour continuer d'occuper le marché. Lorsqu'on parle de protection de l'environnement, l'économie seule n'y arrive pas. Nourrir tout le monde ici et ailleurs, si on laisse les enjeux économiques, ça n'arrive pas. Ici, on le voit, le nombre de gens qui vont dans les banques alimentaires ne cesse d'augmenter. Et les gens qui souffrent de la faim, il y a 200 millions de personnes de plus qui souffrent de la faim depuis le début de la pandémie. Rémunérer adéquatement les producteurs dans l'économie pure, ça ne fonctionne pas. Puis assurer la ressource à long terme dans l'économie pure, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, le commerce seul ou l'économie pure ne fonctionne pas. Ça prend des encadrements. Nourrir l'humanité durablement, c'est se donner une convention sur l'alimentation durable qui va permettre aux pays, cette convention-là serait à la FAO, mais qui permettrait aux pays qui veulent d'abord assurer leur autonomie alimentaire d'y travailler, qui permettrait aux pays d'avoir des règles commerciales qui respectent les règles nationales, qui permettrait aux pays d'assurer l'alimentation de toute leur population. Moi, je pense qu'il faut revenir à une conception plus nationale de l'alimentation qu'internationale. On va commercer pareil. Pendant que je dis ça, j'ai aucune inquiétude pour les producteurs de porc qui exportent, parce que la Chine, l'Asie, vont avoir besoin de nos produits pour nourrir leur population. Mais ils vont pouvoir exiger leurs conditions plutôt que les conditions négociées à l'OMC. Nous aussi, on va continuer d'importer. On ne peut pas s'alimenter seul. Donc, nourrir l'humanité durablement, c'est un peu faire ce qu'on a fait avec l'acception culturelle, c'est donner des règles pour que la culture survive dans chacune de nos nations, dans nos ethnies. Nourrir durablement, c'est assurer l'alimentation. Donc, là-dessus, moi, je pense qu'on tient quelque chose d'intéressant puis que le moment est venu d'avoir cette grande discussion-là entre les producteurs au niveau international. Maintenant, je termine vraiment. Ça fait quelques fois, je te le dis. Ça se passe que j'aime ça. Tu sais, je n'ai pas hâte de partir, dans le fond. Là. J'ai présidé la Fédération des producteurs de lait, j'ai été dans d'autres organisations, mais l'Union des producteurs agricoles, c'est vraiment l'organisation, par rapport à mes valeurs, qui m'a vraiment aspiré. Le principe de mise en marché collective, de travail en commun, de mettre la force de tous au service de chacun, ça m'a vraiment inspiré. Moi, je l'ai fait à quelques reprises, mettre la force de l'Union au service des uns, tantôt des autres. Quand les producteurs de lait de chèvre se sont fait menacer que Saputo et les autres arrêteraient de s'approvisionner, puis avec quelques semaines d'avis, j'ai pris le téléphone comme président de l'Union, j'ai appelé Saputo, j'ai appelé Lactalis, j'ai appelé Agropur, puis je leur ai dit, si vous faites ça, attachez vos tucs, il va vanter. Bien, ils ont dit, wow, pas trop vite, là, on n'est pas rendu. Bien, j'ai dit, regardez, là, c'est ce que j'entends, moi. Puis finalement, on s'est assis, on a réglé les problèmes qu'avaient les producteurs de lait de chèvre au niveau de la qualité. Aujourd'hui, ils ont continué d'acheter, puis il manque 1 million, d'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, là. Il manque 1 million de litres de lait de chèvre au Québec. Mais si l'Union n'était pas intervenue à ce moment-là, je pense que ça en était fait. Dans le dossier des travailleurs étrangers, avec les producteurs maraîchers, on a eu à intervenir plusieurs fois dans les dernières années. La dernière fois qu'on est sorti en conférence de presse, on a interpellé le gouvernement, la ministre, le jeudi. Le vendredi, on avait une rencontre avec Mme Bibeau et Mme Qualtreau, et les choses se sont réglées à partir de là. Les engagements ont été pris. Puis je remercie Mme Bibeau d'avoir organisé cette rencontre-là. C'est grâce à elle qu'on a eu cette rencontre-là avec Mme Qualtreau. Puis je pense que le dossier d'assouplir, d'alléger le programme pour ses utilisateurs est sur la bonne voie. Sur le dossier des pesticides, c'est compliqué, les pesticides. C'est pas simple d'expliquer ça aux consommateurs. J'ai pris la parole. Auparavant, on attendait que les coûts arrivent, puis on essayait de réagir. Quand les rapports sortent aujourd'hui sur les résidus ou les traces de pesticides sur les aliments, on sort, on explique. Quelquefois, on dit « faut s'améliorer » parce que là, on voit qu'il y a vraiment un problème. À d'autres fois, on va dire « regardez ce qu'on a fait comme amélioration, c'est notable ». Mais on prend la parole, on explique au public. L'Union peut le faire parce que nous, on n'est pas directement impliqués dans chacune des productions, puis on peut le faire au service des productions pour lesquelles on travaille. Les services de comptabilité, fiscalité, on continue de développer les services. Mangeons local plus que jamais. On a fait une tournée formidable cet été. Jamais on a parlé autant d'alimentation locale. On a mis en place la table pour les marchés et l'agriculture de proximité. La dernière table, jeudi dernier, c'est incroyable, toute l'information qui s'est échangée là. Une union plus inclusive, où même les groupes non affiliés participent. La table sur le développement de l'agriculture biologique, on l'a lancée il y a 3 ans. On a dit, on va voir comment ça va, si ça va bien. La Fédération d'agriculture biologique, au lieu de passer 75 % de son temps à tenter de se financer, bien, l'UPA a financé cette table-là, qui fait le travail que la Fédération faisait, mais avec beaucoup moins d'efforts au niveau de lever du financement puis de maintenir la structure. Encore une fois, en collaboration avec tous les intervenants, maisons d'enseignement, de recherche, les gouvernements. On est une union beaucoup plus inclusive qu'on était. Puis moi, je vous invite à continuer d'y travailler, d'y participer, de vous engager. Les producteurs agricoles au Québec, on est 0,5 % de la population. Lorsqu'on est tous ensemble, on est une des voix les plus fortes au Québec. Privez-vous pas de tout ça, s'il vous plaît. Continuez de militer dans votre organisation. Continuez de soutenir l'Union des producteurs agricoles. Puis sur la voie d'un financement plus juste, je pense que les jalons ont été posés. J'ai rencontré plusieurs groupes. J'ai expliqué comment le nouveau plan de financement pourrait fonctionner. Des strates, des cotisations ajustées selon les revenus des entreprises, des cotisations supplémentaires pour les entreprises sans plan conjoint. On a un beau projet pour financer une union plus forte de façon plus équitable. Il faut que ça se complète. Moi, j'ai confiance que ça se complète. J'ai confiance qu'on ait la modification de la loi sur les producteurs agricoles pour y arriver. Alors moi, j'ai mis mes 10 dernières années... OK. Il y a un petit chat qui a passé, là. Moi, j'ai mis les 10 dernières années à construire une union plus ouverte sur les citoyens, plus ouverte vers les producteurs et tous les groupes qui la composent, à l'écoute de la société, mais en même temps en échange avec la société. Puis je pense qu'on a une organisation qui est prête à faire face aux défis de demain. puis une organisation unique en ce sens qu'elle regroupe la voix de tous les producteurs agricoles. Préservez-la, s'il vous plaît. Merci.
Ici Lionel Levac. Marcel Groslot rentre dans ses terres, comme on dit. Le nouveau président de l'UPA est Martin Caron, de Louisville. Je m'entretiendrai bientôt avec lui. Au revoir.